12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Place à la critique et place aujourd'hui à deux essais dont les mots d'ordre pourraient être « soyez fatigués, soyez égoïstes ». Bref, deux essais pour réhabiliter des états repoussoirs et critiqués. D'abord, le manifeste pour un égoïsme féminin de Corinne Meyer et ensuite la société de la fatigue de Byung-Chul Han.
Et nous en débattons ce midi avec vous, Nora Boisoni, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, écrivaine et traductrice, face à vous, Valentine Faure, bonjour Valentine.
Bonjour.
Journaliste, collaboratrice aux pages Idées du Monde et à M, le magazine du Monde. Soyez toutes les deux les bienvenues. Bienvenue dans les Midis de Culture.
J'ai dit le contraire, mais en fait, on va commencer avec la société de la fatigue de Byung-Chul Han.
Alors que la mécanisation et l'automatisme lui épargnent de multiples efforts, il semble pourtant aujourd'hui que l'homme moderne se sente de plus en plus fatigué. Comment expliquez-vous ce phénomène, monsieur le professeur ?
Il faut savoir que la fatigue fait intervenir des facteurs physiques et psychiques. Même si l'on admet que l'être humain parvienne à s'adapter à la vie sur d'autres planètes, il y aura une loi qu'il ne pourra pas transgresser, l'activité récupération. Et cette récupération seule, le sommeil peut la donner.
Ah, comme ça tombe bien de parler de ce livre en cette journée internationale du sommeil. Car oui, nous sommes fatigués, nous sommes épuisés, tels des Prométhées modernes. Nous voici dans la performance permanente, à nous ronger indéfiniment, de travail en labeur, de labeur en travail. C'est ainsi que s'ouvre le court essai du philosophe Byung-Chul Han, réitérant ce que d'autres essais, il faut bien le dire, ont déjà exposé avant lui. Celui d'une société de la fatigue. À ceci près que pour lui, nous ne souffrons plus d'attaques ou de contraintes extérieures, mais de celles que nous avons intériorisées. Positivité infinie qui consiste toujours à en faire plus, à se saturer en activité et en information, bref, à s'auto-exploiter. D'où notre fatigue, notre dépression chronique. Se dessine pourtant une lueur, et si la fatigue n'était pas que l'épuisement, mais aussi une forme de relâchement, l'occasion d'un laisser-aller. Qu'en avez-vous pensé, Valentine Faure ?
J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, c'est un tout petit livre. Ça fait, je crois, 80 pages.
Oui, à peu près.
Donc, c'est un livre qui va très vite, qui brasse beaucoup d'idées. Et c'est vrai que si on résume, on peut trouver que c'est un peu des réflexions de bon sens, quoi, qu'on connaît, qui sont devenues familières. Mais d'abord, il faut rappeler que ce livre est sorti il y a 15 ans déjà, en fait. Donc, c'est une réédition, c'est une nouvelle traduction, en fait. Et puis surtout, c'est articulé de façon très originale, les idées entre elles. Le chemin, en fait, est original, avec des références qu'on n'attend pas forcément. Et puis aussi, le fait que ce soit très court et très dense, ça laisse beaucoup d'espace, en fait. Ça donne un certain souffle, donc c'est très agréable. On peut projeter plein de choses, voilà. Et puis ça ouvre un horizon. Enfin, j'ai trouvé ça très, très bien.
Nora Boisoni.
Ben, je rejoins complètement ce que vous dites, Valentine. C'est-à-dire que ce livre permet de mettre en pratique ce qu'il préconise. C'est-à-dire que ça repose sur sa thèse qui est on change de paradigme, on passe d'une société de la discipline donc négativité, à celle de la performance, positivité, celle de l'hyper-possibilité, du pouvoir, du « yes, we can », comme il dit, etc. Et ce que Han dit, c'est que finalement, on n'a pas d'intervalle,
Il n'y a plus de temps mort.
De réflexion, de temps mort, de pause. Et c'est vrai qu'avec ce livre, on a tellement de densité et tellement d'ouverture que, à chaque paragraphe, on réfléchit, on se pose et on dit « ah tiens, ça ». Moi, j'y vois des parallèles avec, par exemple, l'aménagement du travail post-Covid. C'est-à-dire qu'on passe de la discipline de « tout le monde doit être au travail et surveillé, etc. » à donc la négativité, finalement, de la discipline, à le télétravail avec une forme de positivité, mais de productivisme qu'on s'applique à soi-même, donc cette hyper-positivité. Donc je trouve que c'est assez chouette de pouvoir appliquer, en lisant un livre, quand il ouvre sur l'hyperactivité, sur la perte de l'ennui, de la méditation, de la contemplation, ce livre permet de mettre finalement en pratique ça. J'ai un gros bémol sur plusieurs choses.
Allez-y.
Sur l'introduction notamment, où il file une métaphore
qui
immunologique.
Deux pages.
Ouais, et qui est... Alors moi, j'ai été perdue, c'est-à-dire ça m'a perdue complètement, je n'ai pas compris de quoi.
Ah oui, vous parlez du premier chapitre.
Oui, le premier chapitre, en fait.
Qui est plus long que deux pages.
Qui est plus long. Et en fait, je me suis dit, c'est complètement impénétrable, et c'est à la fin de ma lecture que j'ai compris cette métaphore immunologique, c'est-à-dire que c'est le moi qui en demande trop, donc cette fatigue du mois, comme il l'explique. Et ça, je pense qu'au niveau de l'édition, c'était un peu dommage d'ouvrir sur quelque chose dont on a la clé seulement quand on a fini le livre.
Alors c'est vrai que dans ce premier chapitre qui est un petit peu ardu, il y a cette métaphore biologique qui est tout de suite développée, à savoir nous ne sommes plus dans une société donc de la discipline, mais plus une société immunologique qui doit combattre des virus ou des bactéries extérieures, mais on est vraiment voilà dans une société de la performance, de la violence neuronale. Et là, il se sert beaucoup de l'exemple de la dépression, du burn-out, du syndrome de Guillain-Barré, et on se demande, on peut être aussi gêné par ça effectivement, non seulement par la complexité, mais aussi voilà, qu'est-ce qu'il en dit ? Est-ce que c'est une analyse clinique ou est-ce que c'est une vraie métaphore, selon vous, Valentine ?
Moi, j'ai trouvé ça une façon vraiment très originale de commencer. C'est vrai que c'est un peu ardu. Et alors, c'est complètement déroutant parce qu'on se demande vraiment où il va en venir. Mais en fait, peut-être pour expliquer, en fait, ce qu'il explique, c'est que on a longtemps employé le langage de l'immunologie. Et que c'est de cette manière qu'on définissait le soi et l'extérieur. Il prend l'exemple, par exemple, de la guerre froide. On pense en termes d'attaque et de défense, comme pour une infection, quoi. Il y a le soi, il y a son corps à soi et le corps extérieur, et il faut lutter. Et en fait, il part de là pour expliquer ce changement de paradigme où on aurait abandonné ce schéma immunologique. Et maintenant, la menace ne vient plus de l'extérieur, elle vient de l'intérieur et elle vient du tissu même, non seulement de la société, mais elle est en effet en nous. Et donc, c'est ce qu'il décrit par la suite, c'est le fait qu'on est passé d'une société disciplinaire où l'autorité vient d'ailleurs, vient d'un nom qu'on nous oppose, où on finit par assimiler la contrainte soi-même. Et c'est là la menace. La menace est à l'intérieur de nous, quoi. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une manière très, très originale d'accrocher ce sujet.
Et de la comprendre. Ça vous a pas perdu, vous l'avez tout de suite. Ça vous a permis justement de saisir en quoi, en fait, il y avait un changement justement de sur cette fatigue qui venait de soi et qu'on s'imposait à nous-mêmes, qu'on s'auto-exploitait plutôt que, un patron pouvait nous dire tu dois faire ça, en termes vraiment de discipline, de contraintes, de devoirs. Ça vous a pas perdu.
C'est un peu déroutant, c'est vrai, mais c'est là aussi où la brièveté de l'essai fonctionne très bien. C'est-à-dire que très vite, on passe à autre chose et il articule tellement bien les idées entre elles. C'est des idées qui sont toutes en fait un peu déroutantes, mais qu'il arrive à harmoniser. Non, moi, j'ai trouvé ça très bien.
Nora Boisouni, sur cette métaphore, est-ce que c'est pour vous, c'est une métaphore ou une analyse presque clinique de nos pathologies actuelles ?
Alors, pour moi, c'est deux choses différentes. Sur l'immunologie, il y a des phrases qui sont très claires. Le sujet de la performance est en guerre avec lui-même. Bon, bah là, on comprend tout de suite de quoi on parle. Mais ça vient après ce premier chapitre qui, clairement, moi, en tout cas, m'a beaucoup troublée. Je trouve que je vais en venir à la dépression après, parce que pour moi c'est un truc c'est la chose qui m'a vraiment 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 embêtée dans ce livre. Mais rapidement sur les bases qu'il pose avant, moi ce qui m'a beaucoup stimulée, c'est il affirme des choses qui peuvent sembler complètement paradoxales, voire contradictoires. Et en fait, en deux phrases, il nous fait comprendre que c'est nous qui n'avions pas, déplacé le point de vue, qui n'avions pas pris la big picture, pris assez de recul. Par exemple, quand il parle de cette perte de l'ennui, de ces intervalles qui n'existent plus, de cette crise de l'attention aussi, il parle de l'hyperactivité, de l'hyperprésence du stimuli, donc le bruit qui nous pousse à réagir instantanément. Moi, je pense à la fois aux réseaux sociaux, mais aussi aux débats sur les plateaux télé où personne ne s'écoute, personne ne réfléchit, personne n'hésite, personne ne pense, personne ne dialogue. Et j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais en quoi, juste après, il nous dit « l'hyperactivité est une forme de passivité ». Et là, je me dis « ah, intéressant, parce que j'aurais pas pensé ça, que j'aurais pas dit ça comme ça, j'aurais pas... » Et en fait, tu me dis « mais si, parce qu'en fait, l'hyperactivité, c'est l'impouvoir de dire non ». Et en fait, quand vous lisez un truc comme ça, vous vous dites « oh, ok, un champ s'ouvre à moi », comme disait Valentine, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Sur la dépression, alors on parlait justement de diagnostic, de tableau clinique peut-être, ça m'a énormément embêtée. Je trouve que son diagnostic ou son tableau clinique de la dépression, il est très psychanalysant. Alors, je dis pas qu'il faut pas mettre de la psychanalyse dedans, mais enfin, la dépression, c'est pas un synonyme de fatigue. Tout comme burn-out, c'est pas dépression. En fait, assimiler la dépression à de la fatigue, à ce qu'il appelle donc l'infarctus de l'âme, le surmenage du moi, ça m'a beaucoup embêtée parce que c'est une maladie qui ne donne pas qu'un sentiment d'impuissance ou d'infériorité, c'est polyfactoriel, c'est des facteurs environnementaux, sociaux, biologiques aussi. Et ce qui m'a manqué peut-être, c'est des références au suicide. J'ai l'impression qu'il manquait peut-être quelque chose. Je me suis dit, si on veut vraiment aller plus loin que la dépression, puisque la dépression peut donner lieu à des pensées suicidaires, voire un passage à l'acte, je me suis dit, ce livre peut-être, si on tire encore plus le fil, moi j'aurais été intéressée d'avoir une réflexion de cet auteur de ce philosophe sur le suicide.
Alors, je ne l'ai pas dit, mais Byung-Chul Han, il est né en Corée, il a été professeur en Allemagne, il vit en Allemagne. Ses textes, ils sont traduits dans des dizaines de langues. Il est vraiment très connu. Et vous l'avez dit, Valentine, ce texte, il date d'il y a 15 ans. Quel est l'intérêt de le publier maintenant, alors qu'en fait, on a eu autant de livres sur l'accélération et les problèmes de l'attention, par exemple avec Hartmut Rosa, quand on a eu l'éloge du repos d'Alain Corbin, quand on a eu une ode à la fatigue d'Éric Fiat. C'est-à-dire que là, on a vraiment toutes les cases qui sont cochées de l'attention, la concentration. Est-ce qu'en fait, il dit quelque chose de plus, véritablement ?
Non, sans doute pas. Après, il me semble que ce qu'il dit de la fatigue... En fait, je pense pas que ce soit une lecture psychanalytique au sens où j'ai l'impression que la fatigue est une espèce de mot-clé pour parler d'un désarroi contemporain qui brasse, en fait, plein de types de détresse, quoi. Il me semble que son regard sur la fatigue, la façon dont il articule, c'est assez joli. Parce qu'il parle de deux types de fatigue. Il dit qu'il y a une fatigue qui est individualisante, qui est isolante, qui est sans voix et qui produit rien, qui produit que de la violence et peut-être de la violence contre soi, évidemment. Et puis celle qu'il appelle de ses voeux, qui serait une fatigue curative. Ça, c'est quelque chose qui me semble assez original, une fatigue qui referme les blessures, qui désarme en fait et qui ouvre quelque chose. Peut-être qu'on pourrait donner... C'est vrai qu'on pourrait le résumer comme un post Instagram du genre « prenez le temps, du temps pour vous, voilà, reposez-vous ». C'est vrai. Après, c'est dit de c'est très joliment dit. Par exemple, au lieu de faire un post Instagram, il dit « dans l'amoindrissement du moi, la pesanteur de l'être se déplace du moi vers le monde. Le moins de moi s'exprime sous la forme d'un plus de monde ». Bon, bah, c'est...
Quand c'est assez joli.
C'est joli.
Mais Nicolas Mathieu fait des très jolis posts Instagram, vous savez.
Et puis, il cite aussi Nietzsche, qui est assez inattendu sur la question de l'hyperactivité, en disant qu'elle est mortelle pour la civilisation. Il le cite en disant, donc là c'est Nietzsche qui parle, « À aucune autre époque, les gens actifs, c'est-à-dire sans repos, n'ont été plus estimés. Il y a donc lieu de mettre au nombre des corrections nécessaires que l'on doit apporter au caractère de l'humanité la tâche de fortifier dans une large mesure l'élément contemplatif. » Oui, évidemment, a priori, l'injonction à se calmer, à prendre son temps, est assez. C'est quelque chose, c'est presque une nouvelle injonction en réalité, mais ça me semble une manière originale de l'aborder.
Mais est-ce que vous avez compris, en lisant Byung-Chul Han, parce que moi non, comment en fait on fait cette distinction entre comment on passe d'une mauvaise fatigue qui serait de l'épuisement à une bonne fatigue qui serait celle dont que vous avez citée, Valentine, fatigue curative, réparatrice. Il parle de la fatigue fondamentale en s'appuyant aussi beaucoup sur Peter Handke, par exemple.
Alors justement, c'est ce que disait Valentine. Moi, cette fin, elle m'a un peu galvanisée. Justement, il parle d'une fatigue du nous, en esquissant ça avec Handke, qui serait une fatigue solidaire, une fatigue constructive, une fatigue presque clairvoyante, une fatigue politique, en somme. Une forme de résistance par la fatigue, où il incite, comme il dit, au non-faire, au ne-pas, donc une fatigue qui ne serait pas passive, une fatigue qui serait active. Alors, quand il dit une communauté de la fatigue, moi je pense à la communauté de l'anneau, la fatigue est un thème aussi intéressant dans le Seigneur des Anneaux d'ailleurs, je l'ai vraiment relié tout de suite. Hein. Mais quel est le projet politique? Comment est-ce qu'on applique cette fatigue solidaire, cette fatigue? Et moi vraiment, je n'ai
surtout
pas
si
de
on
réponse.
La subit en fait cette fatigue. Il ne cesse de dire qu'on subit l'épuisement. J'ai du mal à comprendre comment on fait le saut de l'une à l'autre.
Comment on devient activement fatigué ou fatiguement actif? Je ne sais pas, mais je n'ai pas non plus de réponse. Et c'est vrai que ça m'a un peu frustrée à la fin de me dire ce projet me plaît. Il compare les gens fatigués à une nature morte. Je trouve ça magnifique et extrêmement poétique. Et je vois bien ce qu'il veut dire. Je vois il y a un amas de corps fatigués qui réfléchit ensemble peut-être comme un organisme pour prendre une métaphore peut-être biologique, mais comment fait-on? Alors, on n'est pas dans un guide de développement personnel, évidemment, on n'a pas de clé là-dessus, et c'est peut-être ça qui est un peu frustrant.
Un dernier mot, Valentine, justement, sur ce saut de l'une à l'autre de ces fatigues. Là, on reste un petit peu sur notre fin, ce qui donne pas...
Oui, forcément... je pense que c'est pas l'objet du livre que d'expliquer comment... c'est pas de donner des petits conseils en développement personnel. Pour ça, nous avons...
Nous avons le deuxième, et donc nous allons y passer. Merci, Valentine, pour cette transition.
Alors maintenant, nous allons continuer notre visite. Où nous emmenez-vous ?
Vers le laboratoire de fatigue.
Dungchul Han, donc La société de la fatigue, c'est aux éditions PUF et c'est traduit de l'allemand par Olivier Manoni.
12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoy, Nicolas Herbeau.
Nous parlons à présent de hashtag MeFirst, manifeste pour un égoïsme au féminin, signé Corinne Mayer.
L'indifférence à la peine de son semblable est-elle, d'après vous, mon père, une forme de la méchanceté?
Elle vient de l'égoïsme, c'est évident. L'égoïsme se transmet comme une hérédité et se respire comme un microbe.
Voilà, c'est dit, l'égoïsme c'est mal, terrible pathologie qui paradoxalement n'a rien d'égoïste tant elle se transmet facilement. Enfin, pas si facilement à en croire Corinne Mayer qui dénonce avec son livre ce qui enferme les femmes depuis trop longtemps dans leur rôle domestique, maternel et conjugal. Le dévouement à l'autre, le soin, la sollicitude, bref, l'altruisme. Pas si facile d'être égoïste donc et il fallait bien un manuel d'égothérapie pour cultiver ce qui est ici réhabilité au titre de vertu. Vertu libératrice qui, à l'inverse de l'altruisme susnommé, ne repose pas sur l'oubli de soi, sur le goûter des enfants ou les soins à sa mère vieillissante, mais sur une forme de désinvolture. Qu'en avez-vous pensé, Nora Boisouni?
Alors, ça partait très très mal entre ce livre et moi, parce que détourner un hashtag MeToo pour faire un hashtag MeFirst, donc MeToo qui est un projet de dénonciation de violences sexistes, sexuelles, systémiques, au sein de sociétés patriarcales, pour en faire un hashtag qui revendique une forme d'égoïsme et de désinvolture, j'ai trouvé ça gonflé, si ce n'est indécent. Ensuite, l'introduction de ce livre m'a posé beaucoup de problèmes, on dirait des red flags aujourd'hui, donc des signaux qui montrent qu'en fait ça commençait un petit peu à monter, avec cette phrase « il n'est de servitude que consentie », et là j'ai presque eu envie de jeter ce livre et me dire « je ne peux pas continuer une lecture qui commence par ça », qui rappelle la phrase inverse de Nicole Claude Mathieu qui dit « céder n'est pas consentir », en expliquant pourquoi les femmes ont l'air de céder dans des sociétés patriarcales. Ensuite, elle fustige Corinne Mayer à un féminisme soi-disant punitif et anti-homme. Alors, heureusement, tout ça, ça dure pas tout le bouquin. C'est vraiment l'intro, c'est sur quelques lignes, quelques pages. Heureusement, après, on passe à autre chose. Mais moi, le problème que j'ai avec ce livre, il y a des choses qui sont implacables. C'est sûr, il y a des constats implacables. Première partie, le piège de l'amour, c'est implacable. C'est pas la première à en parler. Il y a énormément de livres qui sont sortis.
Qui en font le constat.
Ces dernières années qu'en font le constat. Christelle Murula, Mona Chollet, Victoire Tuyon, enfin, il y a quand même plein de choses qui sortent. Elle ne fait pas autre chose que ce qu'elle dénonce, parce qu'elle dénonce ses livres, hein, finalement, dans l'intro. Elle fait plus ou moins la même chose dans sa première partie, sur le piège de l'amour. C'est court, c'est implacable. En revanche, ce livre évacue la question politique et du système de manière, justement, très désinvolte. Et ça me pose un très gros problème.
Donc, alors, attendez, Nora, parce que vous avez commencé en disant « ça commençait très mal ». Et là, ça n'a pas l'air de continuer très bien. À quel moment ça s'est bien passé?
Ça s'est bien passé parce que c'est un livre qui est galvanisant, je trouve. On a envie d'adhérer à un peu, à ce projet de dire « eh ben, j'en ai plus rien à faire, débrouillez-vous, je lâche tout, on donne tout, on ne reçoit rien ». C'est un travail, donc elle parle du travail du soin, du care, du travail de reproduction sociale qui est essentiel, sinon la civilisation s'effondre hein, quand même, si les femmes arrêtaient d'adhérer à cela, de continuer ce travail du care que les hommes ne prennent pas en charge et que l'État n'aide pas non plus. Hein. Donc je me dis, bon, ok, c'est un projet qui peut me plaire, sauf que c'est un projet individuel qui dessine pour moi un futur individualiste, indésirable. Et moi, le chacun pour soi, c'est pas mon projet politique, féministe ni social.
Valentine Faure.
Oui, alors moi, c'est un livre qui m'a mis dans une grande colère.
Ah oui.
Oui, pas du tout contre le système, mais contre ce livre. Je trouve que c'est complètement daté. C'est-à-dire que c'est un livre qui aurait pu être écrit en 85, quoi. Alors, je ne vois même pas ce qu'on
il y a 39 ans. Pile.
Exactement. Non, mais c'est-à-dire, je ne vois pas ce qu'on peut y apprendre, sauf à avoir été dans une espèce de coma pendant les 50 dernières années. Elle accumule les poncifs sur des choses qu'on sait absolument, qui sont répétées. Bon, peut-être qu'on peut considérer que c'est très bien de rappeler le rôle subalterne des femmes et que on ne peut jamais trop leur dire de se rebeller. Mais c'était d'abord le ton est très agaçant. Elle se trouve tout à fait au-dessus de cette mêlée. Elle se moque des mères de famille qui sont un peu trop dévouées, qui parlent que de leurs enfants et de leurs maris. Je vais quand même citer un petit passage qui donne un peu le ton, où elle dit, en parlant d'elle, de ses mères de famille, « Peut-être craignent-elles de regarder vers le monde des femmes libres qui font ce qu'elles veulent. Cela pourrait remettre en question leur petit confort, car oui, il est plus confortable d'obéir que de se rebeller. Ces femmes confites dans l'égoïsme du repli sont ennuyeuses comme la pluie, etc. » Bon, bah, avec des féministes comme ça, c'est, on n'a vraiment pas.
Mais est-ce qu'il
besoin
se dit véritablement féministe? Parce que penser à un égoïsme au féminin, c'est justement peut-être pas forcément
oui,
promouvoir un féminisme.
De toute évidence, elle vise à une forme d'émancipation. Mais là, en effet, se pose la question de quelle émancipation parle-t-on? C'est-à-dire qu'elle ne fait que donner des conseils de type magazine féminin pour dire n'oubliez pas, prenez un amant, allez boire du vin avec vos copines sans prononcer le mot de mari, enfin des je veux dire ou encore faites garder vos enfants et surtout pas à votre mère, parce que si vous faites garder vos enfants à par votre maman, ça crée une espèce de dette que vous lui devrez quand elle sera grabataire et qu'il faudra s'occuper d'elle. Donc surtout il faut ne pas rentrer dans ce cycle de l'exploitation des femmes. Mais enfin, c'est quelle femme peut être émancipée par ce conseil-là? Quelle mère de famille célibataire va se sentir libérée par le fait qu'il faut qu'elle prenne un peu du bon temps pour elle et qu'elle envoie un peu balader tout ça et qu'elle aille se prendre une babysitter? Enfin, c'est incroyable. Elle prend de haut l'éthique du care comme si c'était un pivot de l'exploitation des femmes sur ce thème sempiternel de la sollicitude. Or, c'est pas ça. En fait, à la fin, il y a un petit frémissement dans sa conclusion où elle se met vaguement à parler du système qui repose sur un travail invisible où, enfin, celui des mères et celui des travailleurs du care qui sont essentiellement féminins et qui sont mal payés. Mais tout le long du livre, elle ne fait que donner des conseils individuels qui forment un projet de société qui est épouvantable en réalité.
Bah, c'est justement pas un projet de société dans la mesure où elle revendique le terme d'égothérapie. Donc c'est le contraire d'un projet de société. Je vous trouve dur sur la première partie où en fait elle esquisse déjà pour le coup. Elle parle de la main invisible par exemple d'Adam Smith. Ça, je trouve ça plutôt bienvenu avec cette idée d'une autre main invisible qui serait justement ce travail non rémunéré, des tâches ménagères. Ça a peut-être été dit. Bon, elle le redit, mais effectivement, est-ce qu'on peut lui faire le procès de dessiner un projet de société avec ce livre-là? Au contraire, c'est même un livre qui se veut mal aimable parce que il est contre une forme de société. C'est vrai, Nora.
Oui, mais moi j'y vois une forme de posture, quoi. Cette espèce de, comme vous le disiez, Valentine, féminisme presque anti-féministe, en fait. C'est-à-dire que là, on est en train de, en fait, on reste dans un féminisme blanc, bourgeois, extrêmement privilégié. Elle parle de son appartement à elle, de son studio qu'elle a les moyens de payer en plus de tout le reste. Qui a les moyens d'avoir une garçonnière, comme elle dit, pour elle, pour écrire, prendre le temps, flâner, dormir. Elle dit qu'elle, bon, c'est pas un projet politique. Donc, je suis d'accord, les femmes agissent peut-être contre elles en prenant en charge ce travail du care. Oui, appeler à une grève générale, je trouve ça galvanisant, je trouve ça fort. Il y a des grèves générales, la Suisse l'a fait, plusieurs pays l'ont fait, mais qui a les moyens de le faire? Ensuite, elle dessine un projet qui en fait est complètement paradoxal. C'est-à-dire qu'elle dit, mesdames, ne dites pas, découragez vos filles de faire des métiers du care parce qu'ils seront dévalorisés, mal payés, etc. Et que vous allez contribuer vous-même. Donc on est en train de cloner les femmes quand même, vous-même à spoiler la société et à perpétuer cette idée que les femmes font le care, etc. et que c'est normal. À la fois, quand moi j'ai une féministe intellectuelle blanche bourgeoise qui dit ça, elle a réussi à être là où elle en est parce qu'elle a sûrement fait garder ses enfants par des femmes et que en fait elle avait
peut-être
des
d'ailleurs,
femmes,
hein.
Des femmes de ménage.
Elle dit j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Elle reconnaît quand même que c'est une chance.
Alors heureusement, parce que moi ça m'aurait encore plus énervée si elle l'a pas reconnu, parce que ça on le voit dans beaucoup de livres en ce moment. Et puis la lutte des classes est un angle mort du féminisme et des féminismes. Ça l'a toujours été, ça l'est encore aujourd'hui. Mais au fond je dis mais oui, mais vous êtes là parce que vous avez délégué ce travail-là. Combien vous payez vos femmes de ménage? Combien vous payez vos nourrices, etc. Elle évacue le système et elle évacue aussi, pour moi, elle sous-estime l'arsenal coercitif de l'État. Parce qu'à la fin, effectivement, comme le dit Valentine, elle esquisse peut-être, elle parle de politique, elle parle de l'État. Elle dit, conclusion, si personne ne prend plus en charge le travail de reproduction sociale et de care, alors l'État sera forcé d'investir et peut-être que ce sera mieux payé ou plus gratuit en tout cas. Alors déjà, c'est mal connaître l'État, je pense, et c'est mal jauger des conséquences des conséquences du coup de la transgression. Les femmes qui n'adhèrent pas à ce programme-là, les femmes rebelles sont punies systématiquement. Et alors qu'on parle de réarmement démographique, rien que le fait de ne pas vouloir d'enfants et de rejeter tout ça, c'est peut-être patriotiquement mal vu et peut-être qu'on va avoir encore du backlash. Donc moi, le fait d'avoir une analyse aussi simpliste, effectivement très daté, mais ça je me dis, il y a des femmes qui vont trouver leur compte dans ce livre.
Voilà, il faut se demander à qui ça s'adresse, c'est-à-dire voilà, que ça s'adresse à un grand public, à des femmes qu'on imagine au-delà de 50 ans.
Ma mère, voilà, elle ne lit pas de l'infirmise, donc ça c'est un livre qui va lui parler. En plus, c'est écrit dans un style des romans qu'elle lit des années 90, donc enfin, non mais je veux dire, oui, mais disons-le, c'est un style effectivement très daté et très années 90 quoi. Mais vraiment là, ne pas parler des violences misogynes systémiques d'une femme qui refuserait ça, on voit des femmes qui sont quand même violentées par leur conjoint parce que elles demandent au conjoint, c'est récent, hein, de faire le biberon. Elles se font taper dessus. Donc là, quand on me dit « Oui, bah, jetez tout, allez boire du vin blanc avec vos copines », je dis « Mais qui fait ça ?» C'est vraiment féministe pour les 1%.
Et sur cette notion d'altruisme, plutôt que d'égoïsme, moi j'ai trouvé ça quand même intéressant de se dire, en fait, si le problème, c'était pas dans l'idée qu'on se faisait de l'altruisme. Alors c'est esquissé, c'est une intuition, mais on se dit que là, il y a quelque chose d'intéressant. Valentine. Sur l'altruisme qu'elle critique justement en creux, qu'elle aurait pu, dont elle commence à amorcer la critique en se disant voilà, on a fondé les rapports familiaux sur de l'altruisme, c'est-à-dire en fait sur une vertu charitable. Or, on pourrait penser tout autre chose. Ça, elle le dit et c'est intéressant. On ne lit pas tant que ça.
Oui, mais bon, la solution qu'elle propose en effet n'a aucune puissance en réalité. C'est que si c'est pour en effet penser à prendre une chambre chez soi qu'on peut bien fermer à clé, etc. Tout ça, quelle forme d'égoïsme. En plus, elle fait une espèce de distinction entre plusieurs formes d'égoïsme. Je vois pas très bien où ça mène, quoi. Le truc qui m'a le plus choquée, c'est vraiment la façon dont elle parle des vieilles, des mères. Elle semble en vouloir personnellement aux vieilles dames qui ne s'occupent pas du temps où elles sont bien portantes, d'organiser leur propre vieillissement. Elle trouve ça une forme d'égoïsme, ça, de repli sur soi. Enfin bon.
Merci beaucoup à toutes les deux, Nora Boisouni, Valentine Faure. Le livre dont on vient de parler, c'est Corinne Meyer, Me First, manifeste pour un égoïsme au féminin aux éditions de l'Observatoire. Toutes les références et tous les débats sont sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.